Por primera vez en 20 años. La rumeur du monde. La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, la situation politique vue de droite. Pas nécessairement exclusivement vue de droite, mais néanmoins nous allons commencer cette revue de détails de la vie publique en parlant de l'opposition, de la situation de la droite, parce qu'elle est soudain remise, peut-être un peu même malgré elle, sur le devant de la scène, à travers ce que l'on appelle le Hollande bashing, c'est-à-dire les unes successives, toutes plus, me semble-t-il, démesurées les unes que les autres, et s'en prenant à François Hollande, à son immobilisme supposé. Et du coup, les regards se tournent vers l'opposition comme il est normal, avec notamment cette une de l'Express, est-ce si Sarkozy avait eu raison ? Et donc c'est une façon aussi de tourner le projecteur vers l'opposition, laquelle est en ce moment, en dehors des dénonciations, j'allais dire presque rituelles du pouvoir en place, mais qui sont venus peut-être un peu tôt pour une opposition venant à peine de quitter le pouvoir. En dehors de cela, la grande affaire, c'est évidemment la direction de l'UMP, la bataille qui s'est engagée pour la tête de l'UMP entre François Fillon, l'ancien Premier ministre, et Jean-François Copé, l'actuel secrétaire général ou patron de l'UMP, mais surtout avec l'ombre tutélaire de Nicolas Sarkozy et la perspective de plus en plus ouverte, de plus en plus affichée d'un retour possible de Nicolas Sarkozy. Alors pour essayer de trier, un petit peu de hiérarchiser dans tout cela, nous avons avec nous Pascal Perrineau qui est prof à Sciences Po et Gérard Courtois qui est directeur éditorial du Monde, qui vont l'un et l'autre nous aider à y voir clair. Alors peut-être peut-on commencer par, au fond, ce qui est, Gérard Courtois, la surprise de la rentrée, c'est-à-dire une montée d'adrénaline contre le pouvoir en place, en même temps, du coup, remettant l'opposition dans une situation qu'elle probablement pensait inespérée sitôt. Gérard Courtois.
Oui, en même temps, est-ce que c'est si surprenant ? On a tendance à oublier, me semble-t-il, les conditions de la victoire de François Hollande au mois de mai, qui ont été beaucoup plus serrées que qu'il ne l'espérait et beaucoup plus serrées que ne le craignait la droite. Autrement dit, au lendemain de cette élection, même si la traduction ensuite, lors des élections législatives, a été nette en faveur de la gauche, mais au lendemain de l'élection de François Hollande, la droite est battue, Sarkozy est battu, mais la droite n'est pas abattue. Elle n'est pas écrasée, elle n'est pas renvoyée par les électeurs à des jours lointains et meilleurs. Elle est, au fond, dans une position qui lui permet, ou en tout cas c'est ce qu'on voit depuis 3 mois, et encore plus depuis quelques semaines, d'être immédiatement dans la revanche, dans une posture de revanche. Alors évidemment, elle est embarrassée par... c'est-à-dire qu'étant devant une compétition pour la direction, pour la présidence de l'UMP, qui se conclura lors du congrès du mois de novembre, elle est à la fois incitée, d'autant plus incitée, à faire de la surenchère dans la critique, et en même temps, du coup, à mon sens, de le faire de manière assez caricaturale et probablement pas très efficace. Quand on entend les principaux leaders de droite, et en particulier les deux principaux candidats pour la présidence de l'UMP, François Fillon et Jean-François Copé, dire à longueur de journée, François Hollande, le président de la République, n'a pas pris la mesure de la crise, mais s'il ne l'avait pas prise, il n'aurait pas été élu. Il a pris la mesure de la crise, la meilleure démonstration, et qu'il a fait toute sa campagne pour dire qu'il faut réduire les déficits de manière très sérieuse et très vigoureuse. Quand ils disent il est en train de tromper les Français ou il a trompé les Français, on est, alors je sais bien que l'opposition, c'est son rôle et sa fonction de s'opposer. Je pense qu'elle le fait de manière excessive, un peu comme les couvertures de magazines que vous évoquiez, ou caricaturales, prises dans cette compétition qui, inévitablement, pousse à la surenchère entre les principaux candidats. Voilà pour le paysage immédiat.
Pascal Perrineau.
Oui, en effet, Gérard Courtois a raison de revenir au moment clé, au moment fondateur, qui est la présidentielle. Cette présidentielle a surpris nombre d'observateurs, et en particulier, il faut rappeler qu'au premier tour, la gauche, la vraie gauche, les cinq candidats de gauche, d'Eva Joly à l'extrême gauche, en passant par François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, c'est moins de 45% des suffrages exprimés. Et donc, quelque part, après une victoire qui a été plus courte que celle à laquelle on s'attendait, et les premières difficultés qui sont inévitables au pouvoir, François Hollande, le Premier ministre et la gauche sont en train de découvrir que la gauche, le noyau de fidèles de la gauche en France, eh bien c'est 45%. D'ailleurs, vous avez vu que dans les fameuses cotes de popularité qui s'accumulent en défaveur de François Hollande et d'Hérault, eh bien, on s'aperçoit qu'ils reviennent tous à 44-45%. C'est-à-dire, voilà, les fidèles de la gauche sont là au rendez-vous. Mais ceux, et là c'est une question importante, ceux qui ont pu faire la décision au second tour reviennent massivement dans la non-gauche. Alors, est-ce qu'ils reviennent à droite? Ça, on va en discuter. Mais ils reviennent dans la non-gauche. Il ne faut pas oublier qu'au fond, la victoire de Hollande, elle est due au second tour, bien sûr, à la mobilisation des électeurs de gauche, mais pas uniquement. Elle est due aux électeurs de François Bayrou et de Marine Le Pen. Et quelque part, depuis le mois de juin, ces électeurs de François Bayrou et de Marine Le Pen, en particulier dans leur composante populaire, qui ont fait la victoire de François Hollande, ils n'y trouvent pas leur compte. Dans ce qui s'est passé, dans ce qui a été annoncé, dans le gouvernement tel qu'il a été confectionné, dans les thèmes qui ont été mis en avant, et il est en train de refluer. Dans la dernière cote de popularité d'Ipsos, qui tout de même, en un mois, montre une chute pour François Hollande de 11 points, ce qui est assez impressionnant, on s'aperçoit que la chute est vertigineuse parmi les électeurs de Marine Le Pen et de François Bayrou. Il y avait là des électeurs qui, au fond, se disaient « il ne faut pas insulter l'avenir ». François Hollande est en place, donnons-lui une chance. Et là, voilà, trois mois après, en tout cas, là, le soutien est retiré massivement. Ce qui doit poser, bien sûr, pour la gauche gouvernante, des questions et des questions profondes sur la stratégie et le cap à venir dans les mois qui viennent.
Oui, il y a eu surtout l'erreur fondatrice de François Hollande, qui est entre les deux tours, d'avoir refusé le soutien de François Bayrou, de facto, de n'en avoir tiré aucun profit. Message clair aux électeurs centristes, nous n'avons pas besoin de vous. Eh bien, voilà, il n'a pas donc eu besoin d'eux, mais ils ne sont pas au rendez-vous. Jean-Claude Casanova.
En considérant l'attitude de l'opposition de droite actuelle, qu'elle a un côté provincial, politique, compréhensible, mais sans grande importance, et en revanche, un côté substantiel faible que je vais essayer d'expliquer. Le côté provincial, c'est que, au fond, la campagne présidentielle a déjà commencé pour l'UMP. Il y a une course pour la candidature à la présidence de la République entre Fillon et Copé, la situation de Sarkozy étant incertaine. Et si j'ose dire, ça joue à tous les échelons, c'est-à-dire que les grands sont en compétition pour la candidature présidentielle, les moins grands sont en compétition pour la notoriété. Et de même que le joueur de tennis monte au filet, l'homme politique monte en l'entrefilet et il essaye d'acquérir un certain degré de notoriété qui le placera dans un éventuel gouvernement, puisque désormais on ne forme plus les gouvernements sur la compétence, mais sur la cote de popularité dans l'opinion. Mais si j'ose dire, c'est compréhensible, naturel, très bien, c'est un parti démocratique qui a une forme de compétition interne et on verra ce que cela donnera. Mais c'est sans grande importance, c'est extrêmement provincial, si vous voulez. Compte tenu de la situation économique de la France, les gens qui s'intéressent à ça s'intéressent à la vie du village, ils ne s'intéressent pas à la situation générale. La situation générale, c'est l'extraordinaire fragilité de l'économie française. Et là-dessus, il y a un grand succès de François Hollande. Ce grand succès de François Hollande, il se mesure dans les taux d'intérêt que nous payons. Il y aurait eu un échec de François Hollande si, brusquement, après l'élection et les premières décisions du gouvernement, la France avait dû emprunter à un taux supérieur. Bien sûr, nous sommes en partie protégés par la mauvaise situation espagnole ou italienne, mais néanmoins, si vous voulez, il y a un satisfecit des marchés à l'orientation générale de prise par le gouvernement français et, disons, une espèce de confiance dans la France, mais qui est extrêmement fragile. Et donc, le gouvernement est engagé dans une grande bataille européenne, si vous voulez, dont les fers de lance ont été la position de Draghi, les tentatives de réforme en Italie et en Espagne, et la volonté française de se mettre également dans une situation de réforme. Et là où je trouve l'opposition extraordinairement faible, pour ne pas dire plus, c'est premièrement, elle ne fait pas son mea culpa, parce que la situation économique française est le produit des 10 années précédentes de politique économique et d'endettement des gouvernements. L'endettement public pour payer les dépenses de fonctionnement, on ne peut pas le reprocher au Parti socialiste des 10 dernières années. On peut remonter loin dans le temps, peut-être, mais enfin, les 10 dernières années, c'est la droite, c'est essentiellement l'UMP, pour être encore plus clair, le RPR, qui a gouverné. Donc elle ne fait pas son mea culpa, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas, quand elle parle de flexibilité du marché du travail, c'est elle qui a maintenu pendant 10 ans les 35 heures. Point à la ligne. Et donc, en 10 ans, les 35 heures sont devenues une grande conquête de la gauche et une grande conquête de la droite. Elle ne fait pas son mea culpa. Et en deuxième lieu, elle n'est pas sur les terrains essentiels et sur la combinaison d'opposition et de patriotisme, d'opposition et de collaboration qui est nécessaire dans une démocratie en situation fragile. Donc en ce qui me concerne, je suis extrêmement sévère substantiellement sur la position de l'UMP et de la droite et compréhensible pour le jeu politique des ambitions.
Gérard Courtois.
Oui, je voudrais rajouter une autre dimension qui est la dimension au fond de l'exercice du pouvoir présidentiel tel qu'il a été façonné, refaçonné et imposé en réalité par Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et dont on voit bien aujourd'hui que François Hollande a le plus grand mal à se détacher. Une fraction de seconde de promotion pour le journal qui sort cet après-midi, Le Monde, dans lequel on a un grand papier écrit par Thomas Vider, le journaliste, un des journalistes qui suit François Hollande, et qu'il a vu hier soir, qu'il a interrogé longuement, en tête à tête, sur l'analyse qu'il fait de la dépression qu'il traverse et qu'il ne nie pas du tout. Et il a un très de long développement, très lucide, me semble-t-il, ce qui ne veut pas dire qu'il a la solution, mais très lucide sur ce que, au fond, le legs de Nicolas Sarkozy en matière d'allure présidentielle. Et je vous cite brièvement les choses, sa citation. Nicolas Sarkozy a été rejeté par les Français, mais il a laissé entre eux et le pouvoir exécutif une relation passionnelle. Il a imposé l'habitude d'une réactivité maximale. Il a imposé l'idée du « je parle donc je gouverne », ce qu'il récuse, etc. Et il lui revient, dit-il, mais... Et il ajoute que ça prendra du temps, il lui revient de façonner une conception nouvelle de la présidence de la République. Et on voit bien que, par la relative faiblesse, me semble-t-il, de son dispositif politique, gouvernemental et parti socialiste actuellement, et il se retrouve automatiquement, par l'habitude prise à la fois par les médias, par les Français, automatiquement placé en première ligne, renvoyé en première ligne, tout, au fond, dépend de lui... C'est la logique institutionnelle, mais il voulait essayer de la rééquilibrer. Il n'y parvient pas, et je pense que là, il a une espèce il y a une sorte de surplomb de la présidence Sarkozy dans la manière de gouverner et de présider, dont il a du mal à se départir.
Oui, ce sont deux choses peut-être un peu différentes. D'ailleurs, l'argument que vous évoquez, Gérard Courtois, fait penser à celui qui est utilisé par François Fillon, contre François Hollande sur le thème qu'il soit enfin chef d'État. Ce qui est intéressant venant de la part de François Fillon, à qui on a reproché d'ailleurs de ne pas être suffisamment Premier ministre, et dit qu'il soit enfin chef d'État, ça fait référence en effet à cette conception très sarkozienne du rôle du chef d'État. La presse, je dirais, c'est un peu différent, parce que moi ça me fait penser à, dans une entreprise ou une grande entreprise, quand une nouvelle direction s'installe et qu'elle est face à un syndicat puissant, eh bien ce syndicat va tester la nouvelle direction en la provoquant. Eh bien là, la presse teste un peu la résistance de François Hollande en le provoquant, à charge pour François Hollande de ne pas répondre à ces impulsions de la presse. Malheureusement pour lui, à mon avis, il y répond. Et il se prête à l'exercice que lui demande, auquel lui demande de se livrer la presse, qui est probablement, de son point de vue, une erreur. Mais enfin, ça, c'est son problème. Pour revenir aux questions précédentes, à l'analyse de Jean-Claude et à celle de Gérard, Pascal Perrineau.
Tout à fait. Je crois qu'au-delà de l'affrontement de deux types d'exercice du pouvoir présidentiel, il y a aussi l'affrontement entre Sarkozy et Hollande qui continue de manière subliminale. Les propos du président de la République le montrent d'ailleurs. Il est sans arrêt obligé encore de se poser en s'opposant. Et peut-être que François Hollande aura résolu ses problèmes le jour où il sera sorti de cet affrontement permanent et où il existera, la présidence Hollande existera par elle-même. Mais pour l'instant, on s'aperçoit, et c'est très intéressant dans les enquêtes d'opinion qui continuent à comparer les qualités supposées ou réelles de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, de voir que les Français ont deux systèmes de représentation extrêmement différents. Et c'était déjà valable d'ailleurs tout au long de la campagne présidentielle. D'un côté, pour François Hollande, pour les Français, François Hollande a deux grandes qualités. C'est sa capacité de rassemblement et la proximité qu'on lui prête avec les préoccupations des Français. Et là-dessus, c'était deux qualités qu'on ne prêtait pas à Nicolas Sarkozy. Mais en revanche, on prête à Nicolas Sarkozy, et on continue à prêter à Nicolas Sarkozy, une grande capacité d'énergie et de décision dans des contextes difficiles. Qualité que l'on ne prête pas à François Hollande au même niveau. Cela était valable avant la présidentielle, cela continue aujourd'hui à être extrêmement présent. Alors on voit très bien comment les qualités de rassemblement et de proximité, ça permet de gagner une élection. Mais ensuite, pour gouverner, en particulier dans un contexte extrêmement difficile que rappelait tout à l'heure Jean-Claude Casanova, les capacités d'énergie et de décision, bien sûr, sont valorisées. Et là, il faut certainement que François Hollande, sans faire du Sarkozy bis auquel certains l'invitent, il faut que François Hollande montre ses capacités propres d'énergie et de décision, afin de rentrer dans le marbre de la fonction présidentielle telle que les Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, l'attendent. Et je crois que cette dépression dans l'opinion qu'on a connue, c'est pas la première fois d'ailleurs, hein, qu'un président connaît une forte décote pendant l'été. Souvenons-nous de François Mitterrand, de juin 81 à septembre 81. Souvenons-nous de Jacques Chirac, en 1995. Il y avait eu aussi des phénomènes de décote, simplement, ils partaient de plus haut. Le problème, c'est que, oui, François Hollande n'a pas connu de véritable effet lune de miel, d'état de grâce, donc il parle de plus bas. Et donc, ça y est, voilà, il est en dessous maintenant des 50%. D'où peut-être cette réaction extrêmement vive des différents organes de presse à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Mais il y a certainement une attente de la part de l'opinion publique vis-à-vis de François Hollande quand le candidat François Hollande, porteur des valeurs positives de rassemblement et de proximité, va-t-il devenir un président capable de porter les vertus réelles ou supposées de l'énergie et de la décision?
À droite, la question, c'est de savoir si c'est l'heure à nouveau du retour de Nicolas Sarkozy, de façon assez prématurée ou en tout cas inattendue pour les postulants à sa succession. Donc comment voyez-vous les choses? Est-ce que François Fillon ne tire pas justement l'avantage qu'il a aujourd'hui dans l'opinion du fait qu'il a été celui qui s'est davantage distancé de Nicolas Sarkozy, ce qui viendrait un petit peu atténuer, j'allais dire, le renouveau sarkoziste auquel on assiste aujourd'hui. Et est-ce que Jean-François Copé, au contraire, a raison de camper sur la posture de celui qui est le plus fidèle des soldats, au point de dire qu'il ne serait pas candidat si Nicolas Sarkozy voulait l'être, ce qui me semble extrêmement imprudent. Pascal Perrineau.
Tout dépend de ceux auxquels on s'adresse. S'il s'agit de s'adresser au noyau dur de l'UMP, aux adhérents qui sont en plein travail de deuil extrêmement difficile de la défaite de Nicolas Sarkozy, on comprend très bien le discours de Jean-François Copé. En revanche, si on s'adresse au-delà de ce noyau dur, à un électorat de droite qui se dit « oui, on a bien combattu avec Nicolas Sarkozy, mais maintenant, voilà, nous sommes dans le post-sarkozisme », on comprend beaucoup mieux la stratégie de différenciation subtile qui a été mise en œuvre par François Fillon. Et pour l'instant, si vous regardez les quelques enquêtes dont on dispose, parmi cet électorat de droite plus ou moins proche de l'UMP, François Fillon ne fait pas nettement, il fait très nettement la course en tête. C'est lui qui s'impose. Cependant, la primaire à laquelle on assiste, c'est une primaire parmi les adhérents. Ce ne sont pas les sympathisants de l'UMP qui vont se prononcer. Et je crois qu'il y aura certainement dans le destin que vont connaître Fillon et Copé dans ce combat, eh bien, je crois qu'il y aura une variable importante à suivre, c'est la participation des adhérents. Si véritablement c'est le noyau dur qui participe, Copé a toutes ses chances. Si en revanche, ce sont les adhérents au sens large, eh bien, Fillon a certainement beaucoup de chance. Et on comprend d'ailleurs tout le débat, qui n'est pas simplement un débat de procédure, sur le fichier des adhérents de l'UMP. Parce qu'il s'agit, en particulier pour François Fillon, mais aussi pour NKM et d'autres, pour Bruno Le Maire, de s'adresser à l'ensemble, et non pas aux seuls militants, mais à l'ensemble de ce peuple des adhérents, qui a certainement plus de caractéristiques des sympathisants de l'UMP que des militants purs et durs.
Gérard Courtois.
Oui, je voudrais amender ce que vient de dire Pascal Perrineau sur un point. La différence est évidemment grande entre l'électorat, les sympathisants d'un côté, les adhérents et plus encore les militants de l'autre. Et pourtant, on a vu, il faut relativiser les choses, parce que je pense que de ce point de vue-là, François Fillon est évidemment en position de force. On a vu lors du choix... en 2007 ou en 2012 du candidat ou de la candidate socialiste, que le poids de la démocratie d'opinion pèse, imprègne et très fortement les comportements, les attentes et les choix au fond des militants, même les plus durs ou les plus classiques, disons. Je pense que il y a une porosité maintenant beaucoup plus grande par le poids des sondages, tout simplement, par le poids de la démocratie d'opinion sur le peuple militant. Jean-François Copé a fait le pari que le « guillemets verrouillage » de l'UMP lui permettrait de l'emporter. Ça n'est absolument pas écrit. Il me semble plutôt que c'est le contraire qui se dessine. J'ajoute un mot sur la bataille sur les fichiers, parce qu'au-delà de cet enjeu immédiat, ça témoigne aussi, c'est le symptôme un peu cruel de l'état encore très relatif de la démocratie interne à l'UMP. Et ce n'est pas un jugement de l'extérieur, c'est ce que disent les petits candidats, qui ne sont pas si petits que ça, qui ont un parcours qui est tout à fait honorable, que ce soit Nathalie Kosciusko-Morizet, que ce soit Bruno Le Maire qui parle, ou que ce soit Henri Guénaud, qui parle de procédures ubuesques, de situations et qui craignent que ce duel, si l'on en reste là, que ce duel, évidemment, inévitablement, se fasse sur un affrontement de personnalité et un affrontement vif, mais éventuellement périlleux, au détriment d'un débat plus sérieux sur le fond que souhaitait tout à l'heure Jean-Claude Casanova.
Et qui n'existe pas à ce stade, Jean-Claude Casanova, oui. Précisément.
Non, justement, je suis entièrement d'accord sur ce qu'on vient de dire, mais apparaît très clairement ici le problème de la dialectique du style et du fond, si vous voulez. Nicolas Sarkozy a été battu sur son style, et son fond n'était pas suffisant pour compenser son style. Et dans le problème qui va se poser aux deux dirigeants de droite et à celui d'entre eux qui prendra le leadership et qui apparaîtra très vite comme le futur adversaire de Hollande à la prochaine élection présidentielle, c'est sa capacité à aborder les deux problèmes de fond qui se posent immédiatement, c'est-à-dire quelle position européenne doit prendre la France. Après tout, Hollande va faire approuver un traité qui a été rédigé en partie par Nicolas Sarkozy et qui sera, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins une avancée de fédéralisme européen. Donc, d'une certaine façon, Copé ou Fillon devront se prononcer sur ce point, et d'autre part, ils devront se prononcer sur la politique économique qui doit être menée et qui est décisive, d'une certaine façon, pour la position relative de la France en Europe et pour la zone euro. Et le combat qu'il va y avoir entre eux et Hollande va dépendre de la capacité du président de la République à être justement, à compenser la normalité de son style. Le style, c'est l'homme, il a choisi cette voie, c'est un investissement à long terme. Pour lui, il faudra compenser la normalité de son style par une avancée en substance sur ces deux problèmes qui sont l'Europe et la politique économique. Si François Hollande définit une voie européenne claire et une voie de politique économique claire, il divisera la droite et il se rapprochera du centre et il rendra la vie plus difficile à ses futurs adversaires.
Il me semble que Jean-François Copé s'est déjà prononcé en faveur du traité et en faveur de la ratification du traité. Mais en effet, ces problèmes de fond, pour le moment, ne semblent pas au cœur de la bataille Copé-Fillon, ni même dans les arguments avancés par les uns et les autres. Il faut les chercher ailleurs, notamment, je les ai trouvés un petit peu dans le Figaro d'hier, sous la plume de Frédéric Salabarou, qui est l'ancien secrétaire général de l'Élysée au temps de Jacques Chirac, et qui appelle justement l'opposition à réfléchir et à réfléchir à la question de la désindustrialisation, qui a quand même galopé pendant les 10 dernières années d'exercice du pouvoir par la droite, à réfléchir à la compétitivité, à réfléchir à la valeur travail, en l'appelant justement à renouveler sa pensée sans dogmatisme, et donc très très loin des derniers thèmes de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui était simplement de coller au thème du Front National. Donc là, on s'en éloigne vraiment. Mais en dehors de ces plumes et de ces gens qui, à droite, veulent réfléchir, dans la bataille des chefs, pour le moment, on n'aperçoit pas ces lignes de partage, Gérard Courtois.
Non, absolument. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Claude, en disant si Hollande tranche clairement les deux équations, résout clairement et courageusement les deux équations qu'il a devant lui, la politique économique, et ça on va le voir dans les 12 jours, hein, la présentation du budget 2013 sera le moment de vérité sur ce point-là. Et sur la question européenne, là encore, le moment de vérité va venir rapidement, et notamment lors de la discussion parlementaire de ratification du traité européen. Si François Hollande, disait Jean-Claude, tranche courageusement et clairement ces deux points, il divisera la droite. Oui, mais il peut aussi, au passage,
diviser la gauche, oui.
Sérieusement, diviser son propre camp.
C'est sûr.
Donc, c'est pour ça qu'on sent bien en ce moment cette espèce d'hésitation avant les deux moments de vérité, d'hésitation sur les arbitrages, et en particulier l'arbitrage de politique économique, qui est en cours, qui va... voilà, le choix est simple, dès lors que...
Le choix est simple et en même temps, pardon Gérard, plus compliqué que dans les périodes précédentes où la gauche a gouverné, parce que dans les périodes précédentes, il y avait de vraies discussions, de vrais débats. C'est-à-dire, quand vous aviez le gouvernement Mauroy, premier gouvernement d'union de la gauche, vous aviez d'un côté Pierre Mauroy, Jacques Delors, en face Jean-Pierre Chevènement et François Mitterrand en position d'arbitre. Sous Lionel Jospin, vous aviez d'un côté la ligne Strauss-Kahn, de l'autre la ligne Martine-Aubry. Et Lionel Jospin arbitrait. Mais ça nourrissait le débat, ça l'enrichissait et ça permettait d'ailleurs au passage d'élargir la base électorale. Là, malheureusement, pour François Hollande, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas une ligne héros ou une ligne Moscovici ou une ligne opposée à je ne sais qui. Il y a l'attente d'un arbitrage présidentiel dans les conditions que vous dites. Et donc le débat est aussi assez faible à gauche, me semble-t-il.
De toute façon, j'ai tort de dire que la question est simple, parce qu'évidemment, elle ne l'est pas. Mais c'est vrai, et ça renvoie à ce qu'on a dit au début de l'émission. Je veux dire, il est exact que, et il est malheureusement pour lui évident, que le dispositif politique de François Hollande est faible. Alors, il est faible parce qu'il a un gouvernement dans lequel... très peu d'exceptions près, et je n'inclus pas dans ces exceptions le Premier ministre, pour l'instant, on n'a pas de ministre qui soit véritablement capable de porter le débat public sur leur propre secteur de compétences, comme Manuel Valls, ou au-delà.
Michel Sapin a commencé.
Qui peut.
Valls et Sapin,
voilà,
pour le moment.
Absolument. Et Payon en pointillé sur l'éducation, mais sous bénéfice d'inventaire dans les semaines qui viennent, quand il aura fini de concerter et qu'il décidera. Donc on n'a pas de ministre, ou peu de ministres, capables de porter le débat public. Et on n'a pas, du côté du PS, un lieu de débat, puisque le PS est en ce moment pris dans une compétition opaque et un peu, à mon sens, comment dire, navrante, sur la succession de Martine Aubry, tout ça en régression par rapport à ce qu'avait démontré le PS depuis un an ou deux, de transparence, de démocratie, de respiration démocratique, en revenant à des pratiques totalement opaques et de conclave socialiste. Donc il n'a ni au PS ni au gouvernement, effectivement, de relais intellectuels et politiques qui lui permettent de mettre en scène l'élaboration de la décision. Il va y être confronté très largement seul.
Pascal Perrineau.
Oui, on voit bien comment dans le dispositif politique qui est un peu faible, tous les mécontentements, et Dieu sait s'ils sont nombreux, remontent, eh bien, oui, vers le président et le Premier ministre. Parce que les deux ont connu en 2 mois des décotes tout à fait impressionnantes. Et en effet, personne dans le gouvernement, pour l'instant, sauf peut-être Manuel Valls en termes d'opinion, n'a de réelle existence. Je suis frappé de voir, par exemple, dans la dernière cote de confiance de la Sofres, je regardais le seul qui est un niveau de popularité respectable, c'est Manuel Valls. Et devant lui, les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont les plus populaires en France, c'est Fillon, Juppé, Lagarde. C'est-à-dire trois rôles qui sont trois rôles de droite. Alors, certes, la droite n'a pas trouvé sa voie, la droite n'est pas considérée par une majorité de Français comme ayant une solution alternative aujourd'hui, mais de telles positions en termes d'opinion doivent rendre prudente la gauche aujourd'hui. Des premiers rôles de la droite d'hier sont aujourd'hui populaires, bien au-delà de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy arrive derrière ce trio. Donc cela veut dire quelque chose sur le rapport de force et l'urgence pour le dispositif politique de François Hollande de se mettre vigoureusement en place et de trouver des seconds rôles qui soient des seconds rôles crédibles. Je crois qu'il y a là véritablement urgence, peut-être que le débat budgétaire, peut-être que la présentation de projets de loi forts dans les sessions qui vont s'ouvrir permettront l'émergence et la confirmation de ces seconds rôles dont le président et le Premier ministre ont urgemment besoin.
Vous qui revenez des États-Unis, Pascal Perrineau, vous allez peut-être pouvoir nous renseigner sur ce point. Ce qui est frappant aux États-Unis, c'est la radicalisation absolue du Parti républicain. Et donc le fait que le Parti républicain empêche ce qui était une des grandes traditions de la politique américaine, c'est-à-dire les axes, les politiques bipartisanes. On sait très bien que les idées comme ça et les comportements traversent assez facilement l'Atlantique. Dans quelle mesure est-ce que la droite, telle qu'elle se comporte aujourd'hui, la droite française, n'est pas tentée par ce radicalisme-là? Parce que c'est quand même frappant de voir qu'elle a démarré au quart de tour, le gouvernement n'était pas installé, et que tout est mauvais dans ce qu'énonce ou annonce le gouvernement, jusque et y compris ce qu'elle lui reprochait de ne pas faire. Elle a fait toute sa campagne, la droite, sur le thème « François Hollande néglige la question de la dette ». Or, le programme de François Hollande, c'est un programme de réduction de la dette et c'est un programme de réduction des déficits. Donc, c'est même la seule chose pour le moment qu'il est énoncé clairement et distinctement. Et pour autant, c'est quand même un objet de contestation radicale, en effet, de la part de la droite. Comment voyez-vous ce va-et-vient,
Pascal Perrineau ? On l'a vu dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Il y a bien eu cette tentation au sein de l'UMP dans la stratégie de campagne adoptée par Nicolas Sarkozy. Cependant, la grande différence avec le cas américain, c'est que quelque part, toute une partie de cette droite radicale des valeurs qu'elle incarne est portée aujourd'hui par le Front National et Marine Le Pen. Parce qu'au fond, depuis le début de l'émission, on n'a pas parlé du Front National et de Marine Le Pen, mais le Front National est bien là. D'ailleurs, il vient de lancer dans toutes les villes de France et dans toutes les campagnes de France une grande campagne d'adhésion. Il sent bien que le moment est venu. La gauche connaît un grave problème d'opinion. La droite classique n'a pas retrouvé encore la crédibilité suffisante pour apparaître, bien sûr, comme une alternative. L'heure est venue pour que le Front National puisse récupérer, bien sûr, toute une partie de ces déçus qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui dans toutes les enquêtes d'opinion sur lesquelles on se penche. Il y a là, pour Marine Le Pen qui n'a pas complètement réussi son pari à l'élection présidentielle, il y a là une fenêtre d'opportunité qui va durer pendant quelques mois qui risque d'être long. À la fois pour la gauche et pour la droite.
Oui, je suis interrogatif par rapport à ce que vient de dire Pascal Perrineau. Je pense que la capacité d'attirer, de récupérer ce qu'il peut y avoir de protestation et de colère dans l'opinion actuellement est indéniablement du côté du Front National. Mais en même temps, est-ce que les Français ne sont pas en attente tout autant que d'expression d'une colère ou d'une inquiétude, tout autant de résultats? Et au fond, c'est ce qu'ils reprochent aujourd'hui, ou c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui du chef de l'État, et c'est ce qu'ils lui reprochent de ne pas faire, d'agir et de démontrer sa volonté de résoudre d'une manière ou d'une autre, et autant que possible, les problèmes. Or, sur le terrain de l'efficacité et de la crédibilité, Marine Le Pen a, si je puis dire, loupé son coup. Lors de l'élection présidentielle. Autrement dit, je pense quand même que la droite UMP du côté de la droite UMP que l'opinion publique, que les Français se tournent et se tourneront très vite pour espérer voir se dessiner une alternative, et une alternative sérieuse, une alternative qui ne soit pas uniquement dans la protestation. Il me semble que l'échec de Marine Le Pen à crédibiliser son discours économique pèse lourdement sur sa capacité, sur le moyen terme, à réussir le pari de l'installation d'une force qui pourrait demain être une force de gouvernement.
Je partage votre sentiment, Gérard, mais quand les résultats ne viennent pas, ne viennent pas d'une droite gouvernante, mais il y a beaucoup d'impatience dans l'opinion.
Il y a de l'impatience, mais les gens en même temps sont pas. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas demander des résultats maintenant.
Est-ce que je peux ajouter une incise évidemment sur les problèmes de fond. Les Français comprennent ça, mais quand le gouvernement dit on va geler les loyers, où on va geler le prix de l'essence, et qu'on a des décisions qui sont des décisions que je qualifierais très trivialement de foireuses, de bricolage, que ce soit sur l'affaire du logement, puisque c'est à contre-cycle, ou sur l'affaire du prix de l'essence, puisque tout le monde a compris que ce serait quelques centimes très passagers d'économie ou de baisse. C'est sur des choses comme ça, je pense, que la crédibilité se joue aussi. Et là, le gouvernement, me semble-t-il, durant l'été, a commis deux fausses manœuvres, disons.
Pascal Perrineau.
Oui, puis on a beaucoup insisté, et à juste titre, sur la relative prudence du candidat François Hollande. Mais il y a eu un slogan de campagne tout à fait dominant. Le changement, c'est maintenant. Et quelque part, j'ai l'impression que ce slogan peut être imprudent, est en train de rattraper le président. Il y a une impatience dans l'opinion qui est suscitée, et aussi dans une partie de l'opinion de gauche, bien sûr, qui est suscitée par ce slogan qui a été sans cesse répété tout au long de la campagne et qui a peut-être suscité des attentes qui ne peuvent être mécaniquement que déçues. Et c'est ce que nous sommes, à mon avis, en train de mesurer au cours des trois derniers mois qui se sont écoulés.
Regardez la campagne de Barack Obama, c'est le changement, il faut au moins 4 ans de plus, parce que le changement en période de crise, c'est évidemment quasiment impossible à opérer. Jean-Claude Casanova.
Normalité, ça consiste à apprendre aux autres la patience. C'est le rôle du président de la République et d'être l'éducateur de la patience des Français. Et d'une certaine façon, l'irritation de l'opinion qu'amplifie la presse. La première page, la couverture de l'Observateur sont-ils nuls, est quand même un terme tout à fait excessif, si vous voulez, qui traduise peut-être une partie de l'opinion. Mais quand on dit aux gens il faut la croissance, normalement, il faut dire comment on fait. Tous ces gens qui donnent des conseils au gouvernement sur la croissance, etc., j'aimerais bien les entendre sur les moyens de modifier le taux de croissance dans une économie moderne en 3 mois. Et je trouve, vous avez cité comme gagnant en popularité Valls et Peillon. Et s'ils gagnent l'un et l'autre en popularité, c'est par leur combinaison intelligente de thèmes conservateurs et de thèmes libéraux. Par exemple, Valls, il tient des propos xénophiles, alors que Sarkozy tenait des propos quasiment xénophobes, et il donne le sentiment d'une politique d'ordre, de sécurité, vis-à-vis des Roms, vis-à-vis des insécurités dans les villes, etc. Et Peillon parle de morale, comme en parlaient les gouvernements précédents, et il ajoute que, bien entendu, c'est une morale laïque, etc., et que donc on voit bien qu'ils gagnent en popularité de ce fait, c'est-à-dire qu'ils élargissent avec des propos modérés des axes, si vous voulez, qui correspondent aux désirs de l'opinion française, et qu'il faut faire la même chose en termes économiques et en termes européens, là où sont les grands enjeux.
Gérard Courtois.
Disons, dans l'absolu, je partage tout à fait le sentiment de Jean-Claude, apprendre aux Français la patience par rapport à la crise. Mais je crois que c'est sous-estimer très, très, très clairement la violence du système médiatique qui s'est installé depuis quelques années et qui impose, même quoi que veuille et quelques patience à laquelle le président de la République invite les Français, qui impose des réponses. Alors, je pense que la réponse n'est pas une réponse clé en main sur comment on passe de 0,3% de croissance en 2012 et pas beaucoup plus en 2013 aux 2% qu'on pourrait espérer. La réponse n'est pas là. La réponse, elle est sur quel cap le président de la République entend suivre pour sortir les Français et la France de l'énorme difficulté dans laquelle elle est. Et c'est le cap qui n'est pas clair. Et je pense que dans l'immédiat, la pédagogie, elle doit être sur le cap, presque plus que sur la patience. Les Français comprendront la patience nécessaire si le cap est clair. Tant que le cap est flou, et il est flou, Jean-Marie, vous le disiez tout à l'heure, en dehors de l'impératif de réduction des déficits, le reste, rien d'autre de saillant et de convaincant n'a été jusqu'à présent énoncé. Donc, tant que ce cap-là est flou, les gens seront impatients.
Pascal Perrineau, c'est aussi votre sentiment avant de conclure.
Je crois en effet qu'un discours de la pédagogie doit être un discours sur la dimension du quinquennat, et qu'il faut expliquer où on veut emmener le pays à l'horizon de 5 ans. Et dans ce cadre, en effet, dire quelle est la patience dont il faut s'armer pour s'orienter vers ce cap. Mais je crois aussi que le gouvernement et le président sont en train peut-être de rencontrer les limites des choix qu'ils ont faits juste après la victoire. Ils ont donné l'impression qu'ils croyaient que la victoire était une victoire de la gauche. La victoire n'était pas simplement une victoire de la gauche. Elle rassemblait des hommes et des femmes qui ne se sentent pas de gauche. Et donc la fameuse question de l'ouverture qu'ils n'ont pas voulu se poser, ils seront peut-être obligés de se la reposer dans les semaines et les mois qui viennent.
Voilà, mais on va rester sur cette note ouverte et interrogative de Pascal Perrineau. On a finalement autant parlé de la gauche que de la droite, mais enfin, on a quand même aussi parlé de l'opposition, l'opposition qui est aujourd'hui dans la perspective d'un retour de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on sera tous d'accord pour considérer qu'il donne tous les signes de quelqu'un qui veut se remettre dans la vie publique, et cela rapidement. Donc voilà pour ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur la situation politique, avec Pascal Perrineau qui enseigne à Sciences Po, les sciences politiques, et Gérard Courtois qui est directeur éditorial du Monde. Merci donc d'être fidèle à la rumeur du Monde, qui était comme de coutume réalisée par Brigitte Bouffier, préparée par Meryl Moneghetti, pardon Meryl d'avoir buté sur votre prénom. À la console technique, nous avions Mehdi Ben Ramdan, et voilà, Jean-Claude Casanova et moi-même vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre rumeur du Monde.